Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec le constat du jour. Les salariés français sont moins productifs depuis le Covid. La productivité horaire a reculé de 2,4% en France alors qu'elle dépasse son niveau de 2019 en Allemagne ou encore en Italie. Rémi, est-ce qu'on peut se dire que tout ça c'est lié au droit à la paresse, cher à Sandrine Rousseau? Pourquoi est-on moins productif?
Alors pour les explications, l'INSEE avance plusieurs possibilités. En tout cas, c'est sûr, tu l'as dit, hein, une baisse de 2,4%, ça c'est pour la productivité horaire. La productivité par travailleur, elle a baissé de 3,8% par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire. Dans le domaine, la France est derrière l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, des pays dont la productivité, elle, est en hausse. Et un autre récent rapport établi cette fois par la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail, va dans le même sens. Alors même qu'avant la crise Covid, la productivité au travail en France était en hausse, légère mais constante depuis 2015, c'est ce qui n'est pas sans conséquence, hein, d'après le Conseil d'analyse économique, organisme rattaché cette fois à Matignon, au Premier ministre, sur la période 2006 à 2019, la France a perdu 7 points de PIB par habitant par rapport à l'Allemagne, et la baisse de la productivité explique 5 points, donc sur ces 7 points de baisse, et parmi les explications, il y en a diverses, mais certaines avancées par l'INSEE notamment, c'est le recours excessif, peut-être en tout cas le recours amplifié à l'alternance en France, qui fait qu'on a un certain nombre de personnes qui sont considérées comme salariées en alternance, mais qui forcément, par définition, sont moins productives, puisque ce sont des jeunes qui débutent dans leur travail et qui ont donc moins de compétences, moins de rapidité.
Est-ce qu'on est devenu feignant, Perico Légas?
Je n'utiliserai pas ce terme.
La valeur travail?
Même si, la valeur travail.
Je
connais. Non,
j'avais misé un peu d'argent là-dessus.
C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Le travail est une valeur.
Oui.
Le travail est une valeur. La famille aussi.
Oui. La patrie, vas-y, va au bout.
Hein. Ouais, mais faut pas les utiliser ensemble.
La paresse, non?
Ça a une connotation. Alors, la paresse est devenue une revendication sociale.
Toujours été.
Est devenue même un projet politique. C'est devenu une éthique de comportement. La productivité, c'était la force de l'économie française. C'était ce qui nous distinguait des autres puissances économiques, qui avaient d'autres avantages. Nous, c'était la productivité, on était efficace sur le plan de travail, et c'était un atout majeur, qui depuis longtemps a fait la différence de l'économie, et qui nous permettait, sur certains retards, de rattraper justement de l'efficacité grâce à ça. Là, on a tapé politiquement sur cette productivité, parce que la gauche, pour des raisons tout à fait respectables, d'humanisme, d'angélisme, de générosité, a dit, mais le travail, finalement, c'est une forme de soumission, ça enrichit que les riches. Donc, et Benoît Hamon en a fait sa campagne présidentielle. Voilà.
Le revenu universel.
On a trouvé revenu universel. Et aujourd'hui, on le paye très cher. Et oui, aujourd'hui, alors, il y a une baisse des compétences, parce que l'éducation et l'université ne produisent pas autant d'ingénieurs et de salariés compétents et bien formés.
On peut être compétent sans être ingénieur.
Je parle à tous les échelons, même au niveau supérieur, on n'a pas la pertinence et la perfection qu'il y avait dans l'éducation française. Et puis d'une façon générale, effectivement, on a des leaders politiques qui expliquent que c'était exploité. Donc voilà. Donc et alors la paresse aujourd'hui, je connais des gens et on a eu
le droit à la paresse.
Oui,
de
vous ce connaissez qui?
On a eu un thème. On a eu un thème sur ici où il y avait des gens où nous demandions est-ce que vous êtes d'accord pour travailler moins, parce que c'est pas la peine de faire des efforts, d'avoir de la conscience professionnelle, d'avoir de la rigueur, puisque ça n'enrichit que le patron. Donc j'ai le droit d'en faire le minimum. Et aujourd'hui on est dans un pays où le fait d'en faire le minimum est une revendication.
Moi je ne connais pas les gens qui ont envie d'en faire un minimum. Excusez-moi.
Il y en a beaucoup, je peux vous dire.
Vous les connaissez?
Beaucoup, oui.
Ah bon, on va écouter.
Je ne vais pas les dénoncer là, mais ils existent, ils sont là, et je peux vous dire.
Ne les dénoncez pas. Peut-être qu'il y a Loumire, je ne sais pas, mais Loumire Lapré lève les yeux au ciel depuis le début de la tirade de Perico Légas. Est-ce que finalement c'est un mal qu'on soit devenu, on va dire, moins productif, Loumire?
Bon, alors déjà, l'INSEE explique quand même qu'on n'est pas devenu moins productif, mais que les chiffres sont faussés parce qu'il y a la prise en compte des alternants et parce qu'on a déclaré des gens pendant le Covid pour qu'ils puissent toucher le chômage partiel alors qu'ils n'étaient pas déclarés avant. Donc, les chiffres disent qu'on n'a pas de sujet de baisse de la productivité en France. Donc, en fait, c'est un non-sujet. Par contre, ce que je vois, c'est quand même
pas du tout. C'est pas tout à fait ce que dit l'INSEE.
Minoré par rapport à, il n'y a pas une crise de la productivité française. Sachant qu'on était déjà, on était déjà les plus productifs ou presque d'Europe.
Ben on l'est plus.
Et donc que je veux dire, il n'y a pas un problème de productivité en France. Les gens ne sont pas tout à coup devenus feignants. C'est faux. Moi, quand j'entends ça, je me dis, je pense à tous les gens, tous les premières lignes, tous les gens qui ont bossé pendant le Covid, tous les gens qui se mobilisent en ce moment pour pouvoir continuer à être efficace au travail. Et pour être efficace et productif au travail, il faudrait surtout, si possible, ne pas avoir 64 ans, parce qu'à 64 ans, on est crevé.
Et donc, 63. Sur...
Merci.
Ah ben si, mais moi je suis pour la retraite à 60. Donc,
et à 60, on n'est pas crevé. Et à 55.
Moi je suis bon.
Mais si, aussi, mais tu entends 32, bien que c'est là. Il y a quand même une différence entre 55 ans et 64 ans, non?
Oui, mais entre 63 et 64,
c'est 54 ans, donc je te dirai ça dans 10 ans.
Voilà. D'accord. Bon, bref, les chiffres le disent eux, donc ah bon. J'ai pas forcément besoin d'avoir son avis.
Moi j'ai pas vu qu'il y avait une surmortalité entre 62 et 64 ans.
Du coup, je veux bien parler sans que tout le monde me coupe la parole en permanence.
Je suis pas du tout crevé, j'ai 64 ans, je vais très bien.
Mais c'est bien pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as travaillé en usine, Péricot? C'est quand la dernière fois que tu as travaillé?
Il y a
du travail qui est plus pénible que d'autres.
Non, il y a du travail qui est plus pénible physiquement que d'autres. Oui, mais psychologiquement, tu as aussi des gens qui sont derrière un bureau
et qui ne sont pas
à l'usine et ce sont des boulots fatigants.
Mais d'ailleurs,
tu ne peux pas prendre en compte que la pénibilité physique.
Pour eux aussi, je veux la retraite à 60 ans. Donc moi, je suis assez cohérente sur ce sujet. Pour revenir à ces accusations que la France serait feignante, Péricot, je pense que si on te pousse jusqu'au bout, tu vas nous dire c'est surtout les jeunes, parce que c'est un peu ton grand marronnier. C'est nous, la génération de gens feignants.
C'est une évidence scientifique.
Ah voilà, d'accord, très bien. Donc en fait, comme je suis la seule jeune autour de cette table, comme très souvent...
T'es pas jeune, t'as 30 ans, excuse-moi. Un jeune, c'est pas 30 ans, c'est 18-20 ans. Tu travailles, t'as une maison, une voiture.
Non, t'es une ex-jeune.
Je suis une ex-jeune, d'accord. Alors, je suis la plus jeune de ce plateau. C'est très fatigant d'entendre cette accusation de feignantise à notre égard.
C'est fatigant, alors.
Laissez-la, arrêtez.
Non, mais c'est pas très drôle en fait, quand même, parce que moi j'essaye d'avoir une parole un peu sérieuse sur le sujet et vos réponses elles sont soit se moquer, soit déconsidérer le propos. Je crois que en réalité on vient d'établir qu'il y avait pas vraiment de problème. Donc moi ma question c'est pourquoi les chiffres de l'INSEE. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir faire de ce sujet un sujet politique? Ça n'en est pas un.
Qui a dit que c'est un sujet politique?
C'est
un sujet sociétal.
Non, mais littéralement pas cette histoire. C'est pas parce que Sandrine Rousseau une fois a dit le droit à la paresse. Déjà, Sandrine Rousseau ne représente pas la totalité du camp de gauche.
On peut juste citer une phrase comme ça. On a le droit de faire du second degré. C'est possible.
Sauf que je rappelle quand même que le camp de gauche, en l'occurrence, est le camp de la défense du travail, que la défense du droit à la paresse, qui
Est-ce
peut
que
être.
Tu peux répondre à la question.
Ouais, bah non, il n'y a pas de problème de feignantise en France. En fait, c'est juste,
on en fait autant qu'avant.
C'est juste pas vrai. Oui, d'accord. Et peut-être que, par contre, ce qu'il y a, je crois, c'est ça qui est né avec le Covid et qui a été amplifié, c'est une vraie question de la crise de sens, de à quoi ça sert de travailler. Et tout le monde ne pense pas non qu'on ne travaille que pour enrichir des patrons. Il y a plein de gens qui sont heureux d'aller au travail. Tout le monde ne travaille pas dans le CAC 40. Bah oui, voilà. Donc en fait, je crois que personne ne se dit ça. Par contre, il y a une vraie réflexion à avoir, je crois, sur à quoi sert notre fosse productive. Et d'ailleurs, tous les entreprises qui ont testé les 4 jours, vous allez hurler, oh mon Dieu, encore la gauche qui veut nous faire travailler moins.
Ici, on hurle pas contre la semaine de 4 jours.
Sont contents et disent que les gens sont plus productifs quand ils travaillent moins parce qu'ils travaillent sur des périodes plus ramassées.
Mais personne n'a dit qu'il fallait pas changer notre mode de travail. Hein. Personne n'a dit ça.
Péricot, il dit, oh là là, les 32 heures, oh c'est la gauche qui a détruit le rapport
en Grande-Bretagne, c'est la semaine de 4 jours qui a été tentée avec 36 heures. Et t'es pas obligé de faire 32 heures en 4 jours. Tu peux aussi faire 36.
Je suis d'accord. Mais ce serait intéressant de prendre ce sujet autrement que les Français sont devenus feignants. Parce que vu tout ce qu'on vient de vivre ces 3 dernières années, je pense qu'on peut nous accuser de tout, mais pas de feignantise. Mais par contre, de dire à quoi ça ressemble le rapport au travail en 2023. À quoi ça ressemble quand on a 20 ans de se projeter dans un monde où peut-être on travaillera jusqu'à 64 ans et où il y aura plus de ressources. Je suis désolée.
On travaille déjà jusqu'à 63,6 ans en
moyenne. Oui, avec une surcote.
Oui, peut-être.
C'est quand même une grosse différence.
Hein. Certes. Jérôme Lavrieux, est-ce que vous voyez un changement entre maintenant et l'avant-Covid? Est-ce que vous trouvez qu'on est devenu feignant paresseux?
Pas du tout.
Merci.
Moi, je pense que c'est des trucs de bobos totalement anecdotiques de dire que les Français sont feignants, comme de revendiquer un certain droit à la paresse, à ne rien faire. C'est des épiphénomènes pour faire parler de soi, faire du bruit avec sa bouche et du vent avec ses bras. Les Français sont pas des feignants. Les Français sont des gens qui se lèvent tôt, qui bossent tous, qui essayent de bosser. Et c'est pas parce que vous avez deux ou trois abrutis qui vont vous dire « Ah, mais moi, je préfère avoir le RSA et vivre dans une yourte et rien glander. » Ça ne représente rien du tout, sauf des abrutis. Il y a, dans les chiffres qui sont vrais que nous a donné Rémi, il y a un effet de base. C'est parce que les Français, ils ont eu un choc de productivité quand il y a eu les lois Aubry qui ont fait qu'on est passé de 39 heures à 35 heures, où en fait, les gens, on leur a demandé de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient en 39. Ce qui a amélioré fortement la productivité des Français, ce qui a été aussi une cause pour plus tard, et dont on paye les conséquences maintenant, d'une espèce de sentiment d'épuisement de beaucoup de monde. C'est la preuve que des mesures qui sont sociales sur le papier peuvent avoir des dégâts incommensurables après. Et que dire, moi, je suis de gauche, j'ai la valeur travail, j'ai le bien pour tout le monde. Et ben voilà, quand on a une belle mesure de gauche, qu'on la met en œuvre, on peut se la prendre en boomerang quelques années après. Et ça, c'est le premier effet de base. Et donc, on avait augmenté notre productivité, notamment vis-à-vis des Italiens et des Allemands. Le deuxième effet de base, comme l'a souligné fort justement notre arbitre à tous, qui est Rémi,
tout à fait.
C'est que les Allemands, depuis tout temps, ils ont une grande partie de leurs salariés, enfin de leur force de travail, qui sont des gens qui sont en alternance, en formation professionnelle. Et nous, on vient seulement de s'y mettre. Ça fait 3 ans, on est passé à plus 1,5 million. Troisième et dernier point, et après je me tais, je fais pas de politique politicienne en la matière, c'est que on a chez nous un sujet qui est un peu plus important, c'est que on n'arrive pas à se départir du débat dogmatique à chaque fois. C'est soit on est feignant, soit on est là pour enrichir un patron, soit etc. Je pense que c'est pas ça. Individuellement, les Français et collectivement sont des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie qu'on leur donne leur chance de travailler, qu'ils le font avec abnégation, y compris parfois quand ils ont affaire à des petits chefs qui essaient de les dissuader. Voilà.
Alors justement, c'est intéressant, on est avec Bilal qui nous appelle de Lyon et qui est gérant de société dans le service. Bonjour Bilal.
Bonjour Estelle, bonjour à tous les auditeurs RMC, bonjour à l'équipe.
Et merci d'être avec nous Bilal sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez qu'on est devenu un petit peu plus feignant qu'avant ?
Alors cette question, vous la posez par rapport au constat que le PIB a baissé en France, on est d'accord ?
La productivité a baissé, pas le PIB, la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins de chômeurs qu'avant, mais on a aussi moins de productivité. Ce qui est étonnant, on a perdu 2,4 points de productivité depuis le Covid, alors que dans le même temps, l'Allemagne et l'Italie sont à des niveaux supérieurs depuis la période Covid. Je vous ai perdu ?
Non, pas du tout. Alors la question que je me pose réellement, c'est par rapport à la valeur ajoutée qu'on produit réellement en France.
C'est-à-dire
parce qu'on parle de l'Italie et de l'Allemagne, ce sont deux pays ultra industrialisés. Nous, la France, on s'est désindustrialisé depuis, on va dire, 30 ans, 40 ans. Et forcément, si vous voulez, par rapport au type de travail que nous on fait et que font, forcément, leur productivité est supérieure puisqu'ils produisent plus de valeur.
Oui, mais alors, Bilal, sans se comparer à l'Allemagne ou à l'Italie, on va faire simple. Vous êtes gérant de société. Les gens que vous embauchez ou que vous voyez en entretien, est-ce que vous les trouvez plus ou moins motivés qu'avant ? Est-ce que vous voyez une baisse chez eux ? Et puis ceux que vous avez dans votre société, est-ce que vous trouvez qu'ils travaillent moins qu'avant ?
Alors, moi, personnellement, non. Je constate que les gens travaillent pareil.
D'accord.
Par contre, ce que je peux dire par rapport aux gens que j'écoute, par rapport à mon entourage, etc., ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et ça se comprend, calculent avant de choisir un travail, par exemple.
De vérifier si
d'aller à ce travail, de faire ce travail, ne va pas lui coûter plus cher que, par exemple, que de ne rien faire pour une certaine période, par exemple.
Mais ils pourraient accepter ce que vous dites de rien faire si le travail ne leur convient pas, quoi.
C'est pas que le travail.
C'est pas travailler pour travailler, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, il faut un sens, quoi. Ou que ça rapporte.
Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de travail qui, entre guillemets, ne donne pas de sens, en fait. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils ont envie de se donner un sens à leur vie. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de ce qu'on appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire des boulots qui sont des travails de bureau.
Ils existaient déjà avant.
Oui, mais sauf que si vous voulez, le Covid a un petit peu un petit peu amplifier les choses. C'est-à-dire qu'avant le Covid, peut-être que les gens l'avaient moins remarqué. Avec le Covid, ça s'est davantage amplifié. Mais le problème, il est structurel, en fait. C'est un problème qui est très vieux. On a fait des choix économiques qui, en réalité, ne nous servent pas au final. Parce que la France, qui reste quand même un grand pays à la base industrielle, assez fortement désindustrialisé.
Ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, même la baisse du chiffre du chômage, c'est de la manipulation statistique. Parce qu'on sait très bien qu'en réalité, les trois quarts des gens qui sortent du chômage sont des gens qui sortent de Pôle emploi. Parce qu'ils ont soit dépassé le délai.
Oui, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas inscrit à Pôle emploi. Hein. Voilà, qui touche pas d'indemnité.
Ou bien ce sont des personnes qui se sont mis à leur propre compte. L'ubérisation de la société, c'est pas un mythe.
En tout cas, vous, ce que vous dites.
Si on veut parler de travail qui ne donne aucun sens, Uber, à ce niveau-là, ils sont pas mal.
En tout cas, vous, Bilal, voilà, en tant que gérant de société, vous n'avez pas vu de différence avec l'avant-Covid. Allez, on va prendre Nathalie également, qui nous appelle de Saint-Sigismond, dans le Maine-et-Loire, et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. J'adore avoir des femmes chauffeurs de poids lourd, parce que c'est rare et je trouve ça formidable, Nathalie.
Bravo, Nathalie.
On dit quoi, chauffeur ou chauffeuse poids lourd?
On dit plus ça, on dit conducteur et conductrice.
Et voilà.
Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple. Vous avez raison, Nathalie. Nathalie, est-ce que pour vous, on est devenu plus feignant ou pas du tout? Est-ce que vous le voyez, tiens, dans votre domaine d'activité?
Oui, on le voit, puisqu'on ne trouve pas de chauffeur. Parce qu'on fait trop d'heures, parce que ceci, parce que cela, parce que moi je veux rentrer à telle heure et parce qu'à côté il y a ça. Mais quand on arrive dans un monde comme le nôtre, moi je parle pour ma, je prêche pour ma paroisse, hein, le monde du transport, on sait à quelle heure on finit, on sait pas toujours à quelle heure on commence, on sait jamais à quelle heure on va finir.
Ah ben c'est sûr.
Mais ça, c'est lié au transport. Les 35 heures dans le transport, on les a jamais vues. Ou alors, mais aujourd'hui c'est pas de la j'appellerai pas de la fainéantise, c'est un peu du genre foutisme. Je viens travailler si j'ai envie de travailler, c'est si ça. J'ai pas envie, j'appelle pas. Je préviens pas, je viens pas.
C'est
du genre foutisme. Aujourd'hui, ouais, il y a plus la valeur travail, il y a plus la conscience professionnelle. Ça, ils en ont rien à faire de la conscience professionnelle. Quand on est des vieux cons comme nous, pardon pour le terme, moi j'ai plus de 20 ans de route. Voilà, on a une conscience professionnelle, on a un respect du client et tout ça. Mais aujourd'hui, ça, même dans les entreprises, ils nous disent. Les gens s'en foutent. On travaille. Comment voulez-vous qu'une chaîne travaille, qu'une usine avance quand on a une mentalité comme ça?
Vous avez raison, Nathalie. Et c'est vrai que ce que souligne Nathalie est important, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les métiers difficiles, on parle du bâtiment, le transport, la restauration. Et ben, il y a plus de manœuvre. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que voilà, on a moins envie quand même de travailler dur, on va dire.
Oui.
Voilà.
Vous avez vu les cars entre chaque bus dans Paris et quelquefois les rames de métro, parce que il y a des affiches dans les bus.
Il y a plus de chauffeurs.
C'est quand même. Je dis pas que ce n'est pas pénible, mais bon, c'est quand même un boulot. C'est pas au fond de la mine en train de pousser des wagonnets. On trouve plus de gens qui veulent conduire des autobus dans Paris, alors que c'est une institution très très ancienne. Donc il y a bien quand même, à un moment donné, un recul de cette conscience, de cette envie de travailler. Et puis on commence à choisir, est-ce que ça a un sens? Mais la conscience professionnelle, c'est nous qui la donnons au sens que l'on donne.
Il y a un sens à tous les métiers. Dans n'importe quel métier, on peut trouver un sens.
Il y a une hiérarchie des sens.
Tout le monde n'est pas médecin de famille, mais il y a un sens dans tous les métiers.
Le sens, il est ce qu'on lui donne aussi. S'il y a quelqu'un qui trouve qu'il n'y a pas de sens dans le métier qu'il fait, alors il a le droit, en fait.
Chauffeur routier, il y a un sens.
Il a le droit d'en changer.
Chauffeur routier, il y a un sens.
Ça, c'est vrai.
Exactement.
Mais je pense que, par exemple, c'est typiquement le cas dans la restauration et dans le bâtiment. Il faut voir aussi les conditions. Non, mais je te dis pas qu'il y a pas de sens. Mais je te dis que c'est aussi normal que les gens, à un moment, se posent la question de leur intérêt à prendre un travail. Enfin, si.
À force de leur dire qu'ils sont exploités, malheureux, ils sont pas considérés.
Mais en fait, les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils sont exploités. Ils savent qu'à 25 ans, ils ont de l'eau dans les genoux. Et que, en fait, ils ont pas d'exosquelette par rapport à
et quand tu décides d'aller dans le bâtiment tu sais très bien
il y a des gens qui n'ont pas le choix.
Et pourquoi ils n'ont pas le choix?
Pourquoi
il y a des gens qui ne choisissent pas
parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Tu veux dire?
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont orientés de force dans le bâtiment, par exemple.
Excuse-moi.
Ça s'appelle l'orientation subie. Oui, bien sûr, si t'as 18 de moyenne à l'école, qui a 18 de moyenne à l'école? On le sait, l'école française est la plus.
Tu choisis ton métier. Tout le monde peut choisir son métier.
Non, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas choisir son métier. C'est le mensonge du quand on veut, on peut. Il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûre, qui font un métier qu'ils n'ont pas choisi. Autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent en intérimaire dans une plateforme de logistique. Ils n'ont pas choisi cet emploi
pour faire autre chose. C'est ça que je te dis. comme tu peux faire, aujourd'hui, tu peux faire des formations.
Ce serait beau.
Tu peux faire une école à 10 000 balles par
an. Et après, tu vas faire quoi? Et du coup, qui va faire ces tafs de logistique? Qui va devenir Caris? Qui va?
T'as des gens qui ont envie de devenir chauffeur routier.
Mais je ne te parle pas de chauffeur routier.
Des robots, notamment. Et notamment des robots dans la logistique.
Oui, non, mais d'accord.
T'as envie de devenir chauffeur routier.
Juste une seconde. Je comprends pas. C'est ce qui explique une partie des chiffres de Rémi quand on compare avec l'Allemagne. L'Allemagne a un problème démographique, sa population vieillit. C'est pour ça qu'ils sont, ils reculent sans cesse l'âge de départ à la retraite. Et pourquoi il y a une densité plus importante dans la productivité? Parce qu'ils remplacent des travaux qui sont faits par des humains, par des machines. Et donc, si tu calcules le PIB par humain qui est au travail, leur productivité augmente.
Voilà. Et par ailleurs, moi, je connais plein de gens dans le bâtiment qui sont très heureux de faire ce métier et
Est-ce que j'ai dit que c'était un horrible métier? Je n'ai pas dit ça.
Non,
j'ai
l'air de dire que c'est horrible.
Pas dit ça. J'ai dit que c'est un métier qui est usant et que ça n'est pas toujours un métier qui est choisi et que par ailleurs, être restaurateur et travailler en extra dans la restauration, ça n'est absolument pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes coûts, il n'y a pas les mêmes avantages.
Tu peux aussi espérer à un moment être restaurateur et faire une formation dans les métiers de la cuisine.
C'est aussi normal que les gens, à un moment, se posent la question du métier qu'ils font et des conditions dans lesquelles ils l'exercent.
Très bien.
Ben voilà, à force de poser la question, on a la productivité qui s'effondre. Voilà,
moi, je connais.
Elle s'effondre pas. Pardon, la dramatisation absolue tout le temps, elle ne s'effondre pas.
Après, je suis désolée, moi, je connais un garçon qui s'appelle Norbert Tarrer, hein, qui est devenu très célèbre par rapport à Top Chef. Norbert, il a commencé en épluchant des légumes à Londres, dans un restaurant. Il est arrivé à Londres, il n'avait pas une thune. Il est arrivé, il a commencé à éplucher des légumes. Et alors, un mois plus tard, il a commencé à faire la cuisine, etc. Aujourd'hui, il a la tête de je ne sais pas combien de restaurants.
D'accord, c'est une star.
Je veux dire, c'est qu'à un moment, mais non, ce conte de fées, il peut arriver, je veux dire, à plein de gens, tu ne fais pas nécessairement le même métier toute ta vie.
C'est un beau monde dans lequel vous vivez.
Je trouve que c'est une belle histoire.
La France victorieuse, c'était que des gens.
C'est pas un monde soviétisé.
Je voudrais qu'on prenne Thibault Langsade en ligne. C'est notre invité sur ce débat. Il est chef d'entreprise et ancien vice-président du MEDEF. Bonjour Thibault Langsade.
Bonjour.
Bon, on n'a pas tout à fait la même définition du travail sur ce plateau, mais c'est souvent le cas dans Estelle Midi. Est-ce que vous trouvez, vous Thibault Langsade, que finalement on est un petit peu plus feignant qu'avant la période Covid?
Non, je crois pas, mais ce qui est évidemment un sujet qui est la baisse de productivité. Et j'ai envie de dire, si je vais un peu plus en profondeur, ce qui a été très justement dit par vos chroniqueurs, notamment par Jérôme Lavrieux, si on veut prendre une analyse macroéconomique, nous avons de façon très structurelle un manque d'investissement dans les entreprises. Nous avons une problématique de recherche et développement. Et quand on regarde les secteurs où la productivité a baissé fortement, c'est essentiellement dans l'industrie. Les énergies, la fabrication de matériel, le transport, l'automobile, où là, effectivement, nous avons un impact très fort sur le PIB, et ce sont ces secteurs-là. Alors après, quand on regarde de façon plus micro, il est clair que quand vous avez une situation de plein emploi, ce qu'on s'apprête à avoir, eh bien, vous avez des difficultés de recrutement, et derrière ces difficultés de recrutement, vous avez de l'employabilité qui est complexe. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin énormément de recruter et que vous n'avez pas toute la population formée, enfin, toutes les personnes formées, eh bien, dans ces cas-là, vous prenez des profils plus atypiques, plus à l'écart de ce que vous allez leur donner, puis vous allez prendre du temps pour les former. Alors oui, il y a l'impact de l'alternance, de la formation professionnelle, d'ailleurs plutôt une bonne chose, il faut qu'on rattrape l'écart par rapport à l'Allemagne. Donc oui, on a doublé depuis ces dernières années, c'est une bonne chose pour les jeunes, mais très concrètement, on a des entreprises qui n'ont pas passé le cap de la digitalisation, je pense notamment aux PME, aux ETI, qui ont besoin d'accélérer. L'industrie qui a besoin d'avoir davantage de R&D, davantage d'investissement par rapport aux Japonais, par rapport aux Allemands, et ça a été très justement dit. Et donc, c'est là où on a une vraie baisse de la productivité. Ramené à cela, est-ce que les Français, on va dire, il y a un désamour sur le travail? Je ne crois pas, compte tenu du fait que dans cette situation de plein emploi, eh bien, tout de même, les entreprises continuent à embaucher avec un vrai sujet qui est l'employabilité. Et si vous êtes embauché parce que, un, il faut vivre, et deux, l'entreprise a besoin de recruter, que, on va dire, le matching ne se fait pas bien, eh bien, là, il peut y avoir des vrais sujets de productivité ou, ce qui a été dit également, pas la volonté de travailler à fond, parce que c'est pas tout à fait un job qui correspond à ce à quoi vous êtes formé, avec voire même le sentiment de déclassement. Et j'ai envie de dire que cette problématique-là va probablement s'accentuer compte tenu du fait que pour le moment, nous nous orientons dans une dynamique de plein emploi et donc il nous manque des personnels formés. La clé reste dans la formation professionnelle, bien évidemment dans l'employabilité des salariés délivrés dans leur cursus, et c'est un sujet qui se traitera progressivement dans le temps sans remède miracle, qui est tout simplement de remettre de l'argent en investissement fort dans les entreprises et puis de se concentrer sur le secteur industriel.
Et Thibault Langsad, petite question tiens, pour l'ouvrir l'après, est-ce que les jeunes sont aussi productifs que les vieux?
Ben, les jeunes sont aussi productifs que les vieux à partir du moment où, on va dire, qu'ils ont une dynamisme et puis une employabilité qui est très forte. Le tout, c'est de s'assurer que le jeune qui arrive en entreprise soit employable immédiatement. Bon, et pour le moment, quand on voit les cursus pédagogiques, quand on voit les difficultés des CFA, on va dire, dans leur financement, pour qu'elles produisent des jeunes prêts à
arriver en entreprise,
on a encore une inadéquation. Moi, je regarde juste une chose, c'est qu'on est dans un pays de dingue. On n'a jamais mis autant de dispositifs sur les jeunes dont on a énormément besoin de leur vitalité. Et donc, ça devrait être naturel pour les entreprises. Et dans la période que nous vivons, on n'a jamais mis autant de dispositifs sur les seniors dont on a besoin de conserver leur expertise. Donc, c'est un truc où on marche sur la tête. Il faut aider impérativement les jeunes par tous les dispositifs d'aide, d'allègement de charges, alors qu'on en a cruellement besoin. Et puis, on nous parle de faire partir les seniors plus rapidement, alors qu'on a énormément besoin de leur expertise.
Ben merci beaucoup Thibault Langsad, c'était très très clair. On va terminer avec des messages, Rémi, et puis le résultat de notre sondage. Les Français sont-ils devenus feignants?
Allez, ce message de Tuc Duval qui nous dit: bonjour l'équipe, je fais ce qu'il faut pour tenir les délais pour la production, mais pas plus. Je m'en fous de la retraite. C'est plus important pour moi de mener une bonne vie plutôt que de me saigner pendant encore 30 ans pour une retraite à attendre.
Voilà. Respectable, ok.
Et la productivité, bon voilà. Et
bon, ben, la productivité est passe à l'as, là c'est sûr. Oui.
Bon, ben... Oui, les Français sont-ils des feignants?
L'ouvrir.
On est sévère.
Non,
on est...
Moi je pense que ça va être oui.
C'est non.
C'est non.
Voilà. C'est non. C'est le non qui l'emporte pour 61%.
Bah, les gens savent, je crois que c'est la marge d'erreur.
Les Français Non, mais attendez. Les Français ne sont pas des feignants.
Évidemment.
Il y a de plus en plus de feignants en France.
D'accord. Mais ça, c'est, tu sais, ça, c'est ton idéologie, Perico.
Ah, mais il le revendique.
Non, mais ne présente pas les choses comme la vérité.
Tu sais quoi, je pense qu'en 68, on le disait déjà.
Et en 68, tu étais déjà là sous les pavés de la plage.
Est-ce que je peux lancer le zapping?
Oui, allez-y.
Je vais vous dire ce qu'il y a. Dans un instant, Jérôme Lavrieux nous dira s'il y aura remaniement du gouvernement. Il a plein d'infos à ce sujet.
Il a sa boule de cristal.
Pour l'ouvrir la presse.